en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. 40 fauteuils à l'Académie française, dont chacun a une histoire étant donné la notoriété de ses occupants au fil des siècles, et ce depuis 1635. Peu à peu, Canal Académie complète la liste de l'histoire de ces fauteuils grâce à Mireille Pastoureau, directeur général de la bibliothèque de l'Institut, conservateur général, et vous rédigez, Mireille Pastoureau, vous rédigez cette histoire et vous organisez au moment de chaque élection une exposition avec quelques trésors, des objets, des livres que possède votre bibliothèque. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Merci de nous rejoindre pour évoquer donc ce fauteuil numéro 29, aujourd'hui occupé par Amine Malouf. Le 14 juin 2012, Amine Malouf est reçu sous la coupole au 29e fauteuil de l'Académie française et il prononce l'éloge de Claude Lévi-Strauss, son prédécesseur. Il est le 19e titulaire de ce fauteuil.
Exactement.
Et les personnalités qui l'ont précédé sont diverses, certaines très connues, d'autres moins.
Tout à fait.
Mais c'est comme tous les fauteuils, finalement.
C'est comme tous les fauteuils,
oui.
Oui, tout à fait.
Alors,
là, on a une belle diversité de scientifiques, philosophes, hommes de lettres, hommes politiques, oui.
Alors, je crois que nous allons commencer, évidemment, par le premier de ces titulaires du premier fauteuil, un certain Pierre Bardin.
Oui, alors ce qu'on rappelle de Pierre Bardin, c'est essentiellement, c'est très triste, c'est son décès, parce que un an après son élection, c'était un philosophe et mathématicien tout à fait savant, mais malheureusement, un an après son élection, il s'est noyé en voulant sauver un de ses anciens élèves. Donc d'une part c'est triste et d'autre part l'Académie s'est trouvée face à son premier décès d'académicien.
Très rapidement.
Et a dû mettre en place des honneurs funèbres. Donc on assiste à tout un cérémonial qui a été organisé à cette occasion, un service à l'église des billettes et la décision de composer un éloge du défunt, ainsi qu'une épitaphe en vers et une en prose. Et cet éloge du défunt, par la suite, s'est transformé en éloge du prédécesseur par le nouvel académicien.
Donc, c'est l'origine de, là, c'est l'origine
vient
de
cet éloge. Pierre Bardin qui s'est noyé.
Le deuxième occupant s'appelle Nicolas Bourbon. Alors si c'est le nom Bourbon, évidemment, est très connu, mais enfin, ce ne sont pas les Bourbons de la famille royale. Celui-ci a été élu à l'Académie française en 1637, donc juste après la mort, justement, de Nicolas Bourdin. C'est un oratorien, un homme d'église.
Exactement, un homme d'église, mais en même temps poète, comme ça a longtemps souvent été le cas, qui a écrit aussi sous des pseudonymes. Et qui a eu toutes ses œuvres publiées en un très beau recueil. Il traduisait également le grec, c'était un lettré.
Un lettré. Et son successeur, François-Henri Salomon de Virlade, élu en 1644, lui, c'est un avocat.
Voilà, c'est un avocat bordelais et il a vécu assez longtemps à Bordeaux, où il appartenait au Parlement de Bordeaux. Il avait acheté la charge de lieutenant de sénéchal de Guyenne, et président au présidial de Bordeaux. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est que l'Académie l'a élu de préférence à Pierre Corneille.
Oui, et à 24 ans tout de même.
Oui, il y avait une raison, c'est qu'à cette époque-là, il s'était engagé à résider à Paris, alors que Pierre Corneille habitait Rouen.
Comme on sait.
Voilà. Et en même temps, Virlade était un familier du président Séguier, qui était protecteur de l'Académie, et l'Académie a voulu faire plaisir au ministre Séguier. Voilà. Mais ensuite, les ressources de Virlade ont diminué et il a dû retourner dans sa province.
Bon, donc ce n'était pas le bon critère.
Voilà.
En numéro 4, nous avons Philippe Quinault, donc, qui a été élu. Alors lui, à deux académies, l'Académie française d'abord, 1670, et l'Académie des inscriptions, 1674. Or, ce Quinault, il est resté encore dans nos mémoires à cause des opéras qu'il écrivait.
Exactement, c'était un collaborateur de Lully, à eux deux, et ils ont donné naissance au genre spécifiquement français de la tragédie lyrique, qui, à la différence de l'opéra italien, ne mettait pas en valeur seulement la musique, mais aussi les décors, les costumes, la danse, les machines et les lumières. Et j'ajoute un mot sur l'Académie des inscriptions, dont il a été un des premiers membres. À l'époque, elle était toute récente. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, en effet, est une émanation de l'Académie française. On l'a appelée au début la Petite Académie. Elle a été composée de quelques membres de l'Académie française qui étaient un peu plus versés dans les inscriptions anciennes, latines et autres que les autres.
Très bien. Et donc, il a écrit une tragédie-ballet, Psyché. Alors, tout de même, cette tragédie-ballet composée par Molière avec la collaboration de Corneille par M. Quinault.
Exactement, voilà. Alors ça, le volume que nous montrons, naturellement, est très précieux. Il appartient à notre réserve.
En cinquième position, c'est enfin un spécialiste de la langue et des mots, parce qu'il y en a tout de même à l'Académie française, François de Calières, qui est élu en 1688. Alors, il a écrit des livres que je trouve très amusants, avec des titres très modernes.
Oui, tout à fait. Des mots à la mode en 1692, des bons mots et des bons contes, du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer. Et toute cette collection de traités eut une grande notoriété.
Il fut donc très connu. Ses livres ont connu même plus de 12 éditions en 4 langues. C'était vraiment le maître auquel on se référait pour bien parler.
Voilà. Et on voit bien que là, donc, nous sommes sous Louis XIV, l'Académie commence à être connue. On voit bien qu'il y a un besoin pour ces traités de la langue, que la bonne langue est recherchée. Et il y a vraiment un public pour acquérir ces traités qui leur diront comment bien parler le français, à se normaliser.
À se normaliser, oui. C'est cela. Alors, en position numéro 6, sur ce fauteuil, on trouve un homme d'église, comme il y en a souvent à l'Académie française, c'est le cardinal de Fleury. C'est un personnage éminent, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est comme il y en eut quelques-uns à l'Académie française, c'était en quelque sorte le premier ministre de Louis XV jusqu'à sa mort, qui eut une grande influence dans les affaires de la France et qui est décédé à 73 ans.
Alors, vous racontez qu'il avait un privilège particulier, c'était celui de monter dans le carrosse du roi.
Voilà, à partir du moment où il a pu monter dans le carrosse, on a vu qu'il était devenu quelqu'un de très important parce que celui qui montait dans le carrosse pouvait dialoguer avec le roi en tête à tête, obtenir des grâces, avoir une intimité. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on a constaté qu'il était très proche du roi.
Alors, je crois qu'on lui donnait deux surnoms, ce cardinal Claude Fleury, l'abbé Fleury, bien sûr, mais on l'appelait aussi Monsieur de Fréjus. Louis XV l'appelait son éternité. C'est quand même magnifique qu'un roi vous appelle son éternité.
Alors, Monsieur de Fréjus, oui, c'était du nom de son évêché, voilà, puisqu'il était évêque de Fréjus. Mais il était amusant parce qu'il disait qu'il avait obtenu cet évêché par indignité divine.
Le titulaire numéro 7 de ce fauteuil numéro 29, c'est Paul d'Albert de Luynes. Donc, c'est le fameux cardinal de Luynes.
Exactement.
Il n'y en a pas plusieurs.
Exactement,
j'espère. Donc, a été élu à l'Académie française en 1743 et membre honoraire de l'Académie des sciences en 1755. C'était à la fois un homme d'église et un savant.
Exactement. Dans ce XVIIIe siècle, beaucoup d'hommes d'église appartiennent à l'Académie française. Et celui-ci, en plus, était de la famille de Luynes, dans laquelle le goût des sciences est héréditaire.
Alors, on l'a préféré à Voltaire. Quand on l'a élu, c'est tout de même amusant aussi de savoir ça. C'est un spécialiste de l'astronomie.
Oui, tout à fait. Il a fait réaliser des observations astronomiques à Bayeux, notamment à Sens, à Fontainebleau et dans son hôtel particulier de Versailles.
Et il a publié un mémoire sur les propriétés du mercure dans les baromètres. Donc, on lui doit au moins cela. Son successeur, le fauteuil numéro 29, son successeur, c'est Florian. Alors, lui, c'est un fabuliste. J'aime beaucoup le mot fabuliste. Alors, combien lui doit-on de fables à ce fabuliste?
Alors, le nombre de fables de Florian...
112.
Bravo. 112 fables. Et dont certaines morales de ces fables sont restées célèbres, notamment « Pour vivre heureux, vivons cachés ».
Ah oui, voilà. Cette phrase, ça vient de lui.
Ça vient de lui, oui.
Et aussi, je crois que c'est amusant de noter que la chanson que tout le monde connaît, « Plaisir d'amour », que nous n'allons pas chanter, rassurez-vous, eh bien, elle vient de ce Florian.
Exactement.
Et elle date de 1785.
Voilà, c'est lui qui l'a composée, oui, c'est tout à fait étonnant.
C'est quand même étonnant.
Elle ne portait pas tout à fait ce titre, elle s'appelait Romance, tout simplement, puis Romance du Chevrier. Et puis, c'est les premières phrases qui ont dominé, universellement connues maintenant, sous le nom de plaisir d'amour.
Il a
écrit les paroles. Oui.
À l'Académie française, on n'a pas que M. Dabadie qui écrit des paroles, on a aussi Florian qui écrit des romances. Le numéro 9, c'est Jean-François Cayava. Alors, on le dit Cayava de l'Estendou parce qu'il est né à l'Estendou, c'est près de Toulouse. Ce Cayava était auteur dramatique.
Exactement, auteur de comédie. Il avait une passion pour Molière. Il a écrit, du reste, en 1802, des études sur Molière. Et on raconte qu'une bague dans laquelle était enchâssée une dent de Molière ne le quittait pas.
Vous adorez les anecdotes, oui. Mireille Pastoureau. Son successeur, c'est Joseph Michaud. Alors, lui, à la fois élu en 1813 dans la classe de la langue et de la littérature française, puisque c'est l'époque où les académies avaient été dissoutes, et après nommé en 1816.
Oui, alors il est un des rares académiciens qui a traversé les régimes. Parce qu'en 1816, à la Restauration, l'Académie française a été restaurée et on a nommé toute une liste de personnalités royalistes et normalement en éliminant les bonapartistes. Et Joseph Michaud a réussi à se maintenir d'une époque à l'autre.
Alors vous, en tant que bibliothécaire ou chartiste, vous aimez bien ce Michaud?
Oui, mais nous
pourquoi
le connaissons sous le nom de sa biographie. La biographie universelle Michaud est encore très utilisée dans les bibliothèques. C'est une très grande biographie universelle en 45 volumes qu'il a composée avec son frère.
C'est quasiment le Wikipédia de l'époque.
Exactement,
si on peut
c'était
dire,
un ouvrage ambitieux,
volumes.
Mais très utile. Oui.
Sûrement. En tout cas, ses opinions politiques qui étaient un peu fluctuantes, c'est le moins qu'on puisse dire, il est passé d'un régime à l'autre, ça lui a au fond sauvé la vie.
Voilà, tout à fait.
Son successeur, c'est Pierre Flourens. Donc lui, c'est un savant, mais dans les sciences médicales. Il est élu à l'Académie française en 1840. Grand spécialiste de l'anesthésie, des chirurgies du cerveau. Il y a toujours des médecins, n'est-ce pas, à l'Académie, c'est souvent.
Oui, mais il est sans doute un des premiers. Et il a une très belle carrière puisqu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Bon, il a également été professeur, mais aussi député. Il a représenté la région de Béziers, l'Hérault, et il votait plutôt à gauche. Mais Louis-Philippe l'a fait pair de France et il a conjugué toutes ses activités.
Et à la bibliothèque, vous avez eu en legs tous ces papiers?
Oui, voilà. Je ne sais pas si nous avons tout, mais nous avons beaucoup de cours manuscrits, beaucoup de manuscrits d'œuvres également, et des coupures de journaux. Nous n'avons pas de correspondance, malheureusement. Mais c'est un don qui a été fait en 1918 par un de ses descendants. Et c'est un très beau fonds. Nous sommes très heureux de conserver ces archives.
Lui succède un autre grand savant, et vraiment très grand savant, c'est Claude Bernard, donc, qui était à la fois membre de l'Académie des sciences, où il a été élu en 1854, et de l'Académie française en 1868. Alors moi, j'ai trouvé que Claude Bernard, il était assez sympathique en cette période où tous nos élèves vont passer le baccalauréat, parce que d'abord, il a échoué au baccalauréat.
Oui, exactement. Il était né...
Et à 19 ans, ce qui n'est quand même pas tout.
Mais bon, il avait des excuses. Il était né dans une famille de vignerons, à Saint-Julien en Beaujolais, et c'est le curé du village qui avait remarqué ses dons et qui lui avait donné quelques cours. Mais évidemment, c'était un petit peu difficile pour lui.
Alors, on lui doit évidemment d'avoir initié l'étude des fonctions vitales par la méthode expérimentale. Vous avez aussi conservé dans votre bibliothèque des lettres de Claude Bernard, très émouvantes.
Oui, ce sont des lettres émouvantes qui sont des lettres privées, parce qu'il faut dire que Claude Bernard n'était pas heureux en ménage. Il avait été marié un petit peu malgré lui avec une dame qui était mondaine, qui avait très mauvais caractère, qui n'aimait pas du tout les recherches savantes de son mari et qui l'a même dénoncé parce qu'il pratiquait la vivisection. Et donc, Claude Bernard a trouvé une consolation tout à fait pure et amicale avec une journaliste qui s'appelait Marie Rafalovitch.
Une russe avec un nom pareil.
Oui, d'origine russe, exactement, qui, elle, s'intéressait beaucoup à ses recherches. Et elle s'est intéressée à ses travaux. C'est une correspondance platonique qui a duré une dizaine d'années. Il y a plus de 500 lettres que Madame Rafalovitch a léguées à notre bibliothèque, à l'Institut.
Voilà comme c'est un peu effectivement émouvant. Succède à Claude Bernard Ernest Renan, grand personnage.
Immense personnage de l'Institut.
Immense personnage, oui, qui a d'abord été à l'Académie des inscriptions en 1856. Comme sémitisant, comme on dit, c'est-à-dire spécialiste des langues sémitiques, puis à l'Académie française. Exact. Mais il avait de bons ennemis.
Mais oui, surtout à partir du moment où il publia sa vie de Jésus.
Vie de Jésus, 1863.
Voilà, oui. Monseigneur Dupanloup à l'Académie se déchaîna. Et l'ouvrage a soulevé, comme on le sait, beaucoup de polémiques en France et à l'étranger.
Au point que, quand il est mort, on aurait dû faire une notice pour faire son éloge.
Oui.
Et elle n'a pas eu lieu.
Oui, exactement. Il avait eu des obsèques nationales. Et la notice nécrologique que l'Académie des inscriptions aurait dû rédiger ne l'a été qu'en 1943.
51 ans après sa mort.
Oui, par René Dussault, exactement.
Alors, vous avez quoi à la bibliothèque d'Ernest Renan ?
Alors, nous avons un magnifique dossier important sur sa mission archéologique en Phénicie, c'est-à-dire en Syrie, qui a eu lieu en 1860-1861. C'est Napoléon III qui l'a envoyé là-bas et Renan avait eu l'intuition qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et effectivement, il a découvert énormément de monuments archéologiques, d'objets et d'inscriptions surtout. C'est les inscriptions qu'il a trouvées en Syrie qui lui ont donné l'idée après de fonder le corpus des inscriptions sémitiques qui existe toujours, qui est une magnifique œuvre savante. Et nous avons toutes les lettres qu'il a écrites de Phénicie. Et c'est très émouvant parce qu'il avait emmené dans son périple sa femme et sa sœur. Et malheureusement, sa sœur est décédée là-bas d'une crise de paludisme. Et Renan lui-même était très atteint. On les a trouvés tous les deux dans le coma. Et lui a pu être sauvé et pas elle.
Il faut dire qu'il leur faisait mener la vie un peu dure.
Ah oui, c'est très drôle parce que dans les premières lettres, il raconte, je cite, « Ma femme et ma sœur supportent bien les fatigues auxquelles je les soumets. Elles font leurs 8 heures de cheval par jour sans être trop épuisées. »
Succède à Ernest Renan, Paul Armand, Chalmel Lacour. J'avoue que j'ai découvert grâce à vous ce personnage que je ne connaissais pas, élu à l'Académie française en 1893. C'est à la fois un homme politique, un diplomate, un historien de la philosophie.
Exactement, il avait été reçu premier à l'agrégation de philosophie et ensuite ses opinions républicaines l'ont mené vers une carrière politique et également il était critique littéraire, il travaillait dans des journaux, notamment à La République française avec Gambetta. C'était un homme austère.
Austère, oui, oui. D'ailleurs, Gabriel Anoto disait « on le respectait plus qu'on ne l'aimait ».
Voilà.
C'est pas très chaleureux.
Voilà, oui.
Alors, Gabriel Anoto, c'est justement son successeur, lui, élu à l'Académie française en 1897. Alors lui, vous l'aimez bien, ce personnage?
Oui, je l'aime bien parce qu'il a mené parallèlement une vie d'homme d'État et une magnifique carrière d'historien. Par goût, il est entré à l'école des chartes, alors qu'après, il a été diplomate, ministre, voilà. Et il a vraiment fait des recherches au plus près des sources d'archives. Et sa biographie de Richelieu demeure encore un modèle. Et c'est quelqu'un qui a travaillé aux archives du Quai d'Orsay, aux archives nationales, et il aimait véritablement l'archive. Il aimait les livres, il était collectionneur, bibliophile, et puis c'était quelqu'un, comme il disait, qui aimait la vie.
Il est mort, et effectivement, ça lui a porté chance, il est mort à 92 ans. Donc il a eu raison d'aimer la vie, et effectivement, c'était aussi un travailleur infatigable, et peut-être que le travail maintient une longue vie, sait-on jamais.
Probablement.
Lui succède sur ce fauteuil André Siegfried, dont le nom est évidemment encore très connu, qui était à la fois membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1932 et à l'Académie française en 1944. C'est une date assez curieuse pour être élu à l'Académie française.
Oui, exactement. Et compte tenu des circonstances exceptionnelles, cette élection n'a pas requis le quorum des votants qui était exigé par le règlement. Il y a eu une exception. Il était le deuxième académicien élu depuis la Libération.
Alors, il avait reçu une formation un peu particulière. D'abord, son père voulait l'orienter vers la vie professionnelle, je suppose.
Active,
mais lui...
oui, et même politique. Son père était Jules Siegfried, maire du Havre, député et ministre. Et il a donné à son fils une éducation à l'anglaise en le faisant voyager en Nouvelle-Zélande pour le préparer à l'action. Or, André Siegfried n'était pas fait pour l'action et il disait même « La volupté de comprendre me paraît aussi belle que l'ivresse de l'action ». Lui était un intellectuel.
Mais en même temps, il a été à la fois historien et géographe. C'est très curieux parce qu'il avait beaucoup voyagé, il connaissait très bien le monde.
Exactement.
Et il avait beaucoup aussi, sans doute, lu.
Oui.
Et donc, il pouvait être historien. Il a été interprète dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale.
Oui. Et il est fondateur de la sociologie électorale avec son ouvrage « Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République », publié en 1913.
Ah oui, donc il a démontré comment la géologie influe sur les votes.
Oui, exactement.
Je crois qu'on devrait relire Siegfried en ce moment, ça nous amuserait beaucoup. D'ailleurs, il y a une médaille de André Siegfried qui a été gravée par Paul Belmondo et qui est dans le médaillé, je suppose, de la bibliothèque
de l'Institut. Tout à fait, car nous avons une très belle collection de médailles de membres de l'Institut. Tout à fait.
Alors, il a fait aussi, et c'est André Siegfried qui ne manquait sans doute pas d'humour, une géographie humoristique de Paris. De quoi s'agit-il ?
En effet, il a voulu savoir où demeuraient les divers corps. Alors, nous sommes surtout intéressés aux académiciens. Il a composé des cartes selon les époques, donc là c'est en 1848, 1880, 1950, en dépouillant les annuaires de l'Institut pour cartographier les lieux de résidence, les arrondissements de résidence des académiciens et voir l'évolution. Et il a fait la même chose pour les magistrats, etc.
On voit qu'en 1948, quelques académiciens habitent l'est de Paris et puis on voit qu'en 1950, ils habitent tous à l'ouest.
Exactement. Il y a un déplacement complet vers l'ouest. Et alors, il fait la distinction entre ceux qui habitent la rive droite et la rive gauche, où il y a plutôt les intellectuels. Enfin,
il étudie tout cela.
Oui.
Après André Siegfried, c'est un immense écrivain qui occupe ce fauteuil. Henri de Monterland est élu à l'Académie française en 1960, auteur dramatique, romancier, essayiste. Bien sûr, on connaît le Monterland homme de lettres. On connaît moins d'autres aspects de Monterland, notamment qu'il a été un grand sportif, qu'il a été aussi un grand combattant. Pendant la Première Guerre mondiale, mobilisé, blessé, décoré, passionné d'athlétisme, passionné de football, passionné de tauromachie, on le sait aussi. Donc c'est véritablement un personnage intéressant, dessinateur aussi.
Voilà, mais il a renoncé au dessin en expliquant que tout ce qui n'est pas littérature ou plaisir est temps perdu.
Bon, eh bien qu'on se le dise.
Et alors nous avons un ensemble de lettres dans le fond de Jérôme Carcopino, qui était un grand historien de la Rome antique, et comme Monterland admirait énormément l'époque romaine, il y a eu des échanges de correspondances. Je montre dans l'exposition quelques lettres, et notamment une dernière lettre à la fin de la vie de Monterland, où Monterland dit à Carcopino « Cher monsieur, merci de votre mot de sympathie, je suis borgne à jamais ». Mais l'autre œil est intact, etc. À la fin, il devenait aveugle.
Et on sait qu'effectivement, il se suicidera échapper à cette déchéance qu'il ne pouvait pas supporter. Donc lui succède le grand ethnologue et anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui est élu à l'Académie française en 1973 et qui nous a quittés récemment. Évidemment, tout le monde sait que son œuvre était très importante. Qu'avez-vous à la bibliothèque de particulier sur lui ?
Alors nous montrerons des ouvrages imprimés. Nous ne pourrons pas montrer d'archives, c'est bien normal, car Claude Lévi-Strauss a donné ses papiers à la Bibliothèque nationale de France, où ils forment un très important ensemble de manuscrits.
Et puis, faut-il dire un mot de l'occupant actuel, Amin Malouf ? Écoutez, on va conseiller d'écouter l'interview qu'il a donnée à Canal Académie avant sa réception sous la coupole, ce qui est quelquefois assez rare. En général, les académiciens futurs attendent d'avoir été reçus pour venir chez nous, mais là, il a bien voulu venir avant. Donc, vous pourrez l'écouter sur Canal Académie dans l'émission « L'essentiel » avec Amin Malouf. Alors, il me reste qu'à remercier Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut, et de vous conseiller d'aller lire tous les détails sur les parcours de ces académiciens que nous avons évoqués sur le site de la bibliothèque de l'Institut, www.bibliothèque-institutdefrance.fr, Institut de France en un seul mot. Ce document que vous avez préparé, on peut le télécharger, je crois.
Parfaitement, tout à fait. Il y a une version illustrée et une autre comportant uniquement le texte.
Merci Mireille Pastoureau, et je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'évoquer un autre fauteuil dans l'année 2012. L'avenir nous le dira.
Exactement.
Merci à vous.
Au revoir.